et France 24 présente
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir.
Notre invitée ce soir est Ramayad. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme, puis au sport, sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Ramayad, donc candidate à l'élection présidentielle sous le slogan « La France pardon, qui ose ». Il faut dire que vous avez souvent osé dans votre vie, et personnelle et politique. Vous avez été la seule à protester contre la venue de Kadhafi en France lorsque vous étiez ministre, alors que tous s'étaient cachés sous le tapis. Vous avez osé dire non à Sarkozy lorsqu'il vous a demandé de vous présenter aux européennes. On vous a traité d'arrogante et de princesse. Vous répondez que c'est votre caractère, l'indépendance d'esprit et l'exigence. Et on peut rajouter un peu frondeuse un mot à la mode. Vous n'êtes pas dupe d'avoir été instrumentalisée comme femme de la diversité. Vous l'écrivez d'ailleurs dans ce petit livre « À l'instant de basculer » aux éditions du Net. Vous faites comme beaucoup un constat et des propositions, on va en parler, mais dans ce petit livre, vous écrivez que votre démarche n'est pas une candidature de témoignage ni d'ego. Alors candidate pour dire quoi de plus? On vous posera la question avec Véronique, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, l'actualité, c'est la Syrie. Aujourd'hui, avec l'État islamique donc qui a repris Palmyre et surtout Alep, qui est sur le point d'être reprise par le régime syrien, mais au prix de massacres et d'une catastrophe humanitaire. Alors que dit l'ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme? En attendant votre réponse, nous allons entendre Bernard Cazeneuve, c'était cet après-midi, le Premier ministre, lors de son discours de politique générale. C'est là-dessus qu'il a commencé.
Et au nom du gouvernement de la France, et j'en suis sûr, en votre nom à tous, je dénonce l'horreur de ces massacres et j'affirme que ceux qui les ont perpétrés auront à en rendre compte devant la communauté internationale. À vous, avec vous, je sais qu'ils connaîtront le jugement sévère de l'histoire.
Véronique.
Face aux martyrs d'Alep, la France appelle à une réunion urgente du Conseil de sécurité. Est-ce que la communauté internationale doit et peut imposer ce corridor humanitaire pour permettre aux 120 000 habitants piégés de quitter la zone des combats?
C'est une nécessité, mais je crois surtout que ce Conseil de sécurité devrait demander des comptes à Vladimir Poutine. Ce que je veux dire,
c'est la priorité, les comptes à Vladimir Poutine, avant de sortir les habitants d'Alep piégés
pour que cesse justement cette hécatombe. On connaît l'origine de cette situation. On sait comment on en est arrivé là. Et je crois aujourd'hui qu'il y a clairement, ce n'est pas peut-être, comme l'a dit le Premier ministre, des crimes contre l'humanité. Et la manière dont nous avons jusqu'ici abordé cette crise, ce tragédie, n'est pas du tout à la hauteur. En s'associant avec deux États que nous considérions encore comme adversaires il y a encore quelques mois, la Russie et l'Iran, nous avons privilégié le sauvetage de Bachar el-Assad. C'est tout. Or, Bachar el-Assad, c'est le boucher de Damas. C'est 300 000 morts sur la conscience. C'est 5 millions de Syriens à l'extérieur. C'est une population de 21 millions d'habitants. 11 millions sont à la rue. C'est une situation absolument apocalyptique. Et je crois que dans cette situation-là, on arrête l'escalade à travers cette alliance sans condition passée avec ces deux États qui, aujourd'hui, ne combattent pas l'État islamique, mais s'évertuent à maintenir Assad au pouvoir.
Alors, en n'intervenant pas au moment de l'attaque chimique en 2013, est-ce que Obama, dans le fond, a laissé ces crimes impunis et laissé les clés à la fois à Bachar el-Assad pour faire ce qu'il voulait et à la fois à Vladimir Poutine?
Je crois que cette reddition d'août 2013 a été un tournant capital dans ce drame. Et là, il faut d'ailleurs rendre hommage au président français François Hollande, qui avait tout fait pour convaincre le président Obama de s'engager à ses côtés. Nous avons fait preuve, quand je dis nous, c'est la communauté internationale, de lâcheté. On a fait la même erreur que lorsqu'il y a eu le printemps arabe. On a soupçonné que derrière les révolutionnaires ou des rebelles ou des démocrates, qu'il y ait des islamistes. Donc on a préféré les abandonner et fermer les yeux. Et résultat, c'est toujours les islamistes ou les extrémistes qui prennent le pouvoir. Et je crois aujourd'hui que le choix n'était pas entre Assad ou l'État islamique. Ce n'est pas un choix. On a choisi Assad.
Il y en a un qui est pire que l'autre.
On a choisi Assad sur ce motif-là, parce qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Vous imaginez, c'est un choix, ça ? Et au milieu, une population civile martyrisée. Moi, je crois qu'il y avait une troisième voie. C'était celle, justement, des rebelles, des démocrates, de ceux qui ne voulaient ni de l'État islamique, ni de Bachar el-Assad. Et c'est cela qu'on a laissé tomber. Et c'est Munich puissance 100 ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, la mort en direct sur les réseaux sociaux, devrait faire honte à ceux qui sont à l'origine de cette histoire-là.
Bachar el-Assad devra un jour répondre de ses crimes contre son propre peuple. Il devra être traîné devant une cour internationale.
Je le souhaite profondément, comme pour le colonel Kadhafi. Je pense que ces hommes-là doivent répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale.
Et est-ce qu'il y a une impuissance de la communauté internationale ? Vous connaissez bien l'Afrique. Plusieurs pays ont quitté la Cour pénale internationale parce qu'ils considéraient, dans le fond, qu'il y avait une justice à deux vitesses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des crimes impunis ? Pourquoi, effectivement, la Syrie n'est pas traduite, Bachar el-Assad n'est pas traduit devant la Cour pénale internationale ? Est-ce que vous souhaitez que ça arrive ?
Parce qu'il est protégé. Il est protégé par l'Iran et par la Russie qui veulent le maintenir sur place. Il est protégé par notre impuissance à nous autres occidentaux qui n'avons pas eu...
Impuissance ou dérobade plutôt, parce que voilà.
Dérobade, impuissance, renoncement, retrait, les mots ne manquent pas pour qualifier ce qui est au fond de la lâcheté. Et effectivement, nous devrons en répondre au niveau de l'histoire. En attendant, il y a urgence effectivement à installer des corridors humanitaires, à ce que ces agressions cessent et que finalement nous organisions, parce que pendant longtemps on a vu juste l'aspect migratoire, on a juste vu les Syriens qui arrivaient, on a vu Calais, on a vu Lampedusa, mais il faut savoir que il y a eu un problème par rapport à ces réfugiés, leur accueil, etc. Mais on n'a jamais vraiment concentré les opinions publiques en Europe, l'attention sur l'origine de la crise. Parce que nous avons effectivement joué avec le feu, nous avons déstabilisé un Moyen-Orient aux équilibres fragiles, nous avons remis même en cause des frontières qui dataient des années 20, des accords Sykes-Picot, et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Et le résultat, c'est que, effectivement, c'est la population civile qui, aujourd'hui, le paye au prix fort.
Comment vous avez jugé, justement, la démarche de ces trois parlementaires français, Cécile Duflot, Hervé Mariton, Patrick Mennucci, qui se sont rendus bien jusqu'à la frontière, hein,
ils ont été refoulés, à la frontière turque,
pour justement faire un peu de bruit et hâter peut-être la mise en place de ce corridor humanitaire. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce genre d'acte symbolique ?
D'autant qu'ils ont été refoulés à la
frontière turque. Oui.
C'est les pieds nickelés un peu.
Oui, non, mais s'ils veulent témoigner, s'ils peuvent témoigner, pourquoi pas. Mais je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Entrer dans Alep, c'est.
Au-delà du coup de com, est-ce que ça a le mérite d'attirer l'attention sur le drame qui est en train de se jouer ?
C'est important de témoigner. C'est important de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, les relations internationales ont changé. On n'est plus au temps où finalement elles étaient régies par des États simplement. Les États se sont embourbés dans différentes guerres, hein, de l'Afghanistan à la Libye. Aujourd'hui, les nouveaux les lanceurs d'alerte que sont les ONG, les opinions publiques, les médias, les militants des droits de l'homme, les parlementaires qui se rendent à la frontière, participent aussi à l'édification de relations internationales nouvelles. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Maintenant, quel est le degré de préparation de cela ? J'espère qu'elle était tout simplement sincère.
Quand on va reparler de politique française, et par ce biais, vous avez dit que François Fillon était le petit télégraphiste de Poutine. À l'époque, on entendait François Mitterrand dire le petit télégraphiste de Moscou en parlant de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une critique, bien sûr, pour François Fillon sur son regard un peu... on va dire plutôt amen sur le président russe.
Depuis plusieurs années, là, et ça s'est accéléré ces derniers mois, une série de responsables politiques français qui ont pris fait et cause pour Vladimir Poutine, très soudainement, plaidant pour ses combats, pour ses positions. Moi, je trouve que il est tout à fait noble pour un responsable politique, surtout français, de ne pas accepter l'abaissement de la France ou de son autorité morale par rapport à ces super grandes puissances, comme par exemple les États-Unis. Mais il ne s'agit pas non plus d'interchanger avec la Russie de Vladimir Poutine. Je n'ai aucune confiance en lui, d'abord parce que la situation des droits de l'homme en Russie n'est pas fiable. D'abord, ensuite parce que sur le front de l'Europe de l'Est, de la Géorgie à l'Ukraine, il a quand même remis du désordre dans une Union européenne en construction, comme aux pires heures de la guerre froide. Et enfin, je n'aime pas trop ce jeu qui consiste à influencer les élections de nos démocraties, comme cela s'est fait aux États-Unis.
Vous pensez que Poutine a pesé sur l'élection américaine.
Poutine a exprimé des positions sur des choix, des positions, des déclarations
que Trump
pour
a été
les
élu,
uns pour les autres.
Oui.
Donc moi, je ne pense pas qu'il soit sain pour notre pays de plaider la cause de Poutine ici.
Pour autant, Poutine reste un partenaire incontournable dans le cadre d'une résolution de cette situation désastreuse.
Mais dans la fermeté, la responsabilité. Ouais, ça veut dire que si on discute avec Vladimir Poutine, moi je n'ai jamais été contre le fait qu'on discute avec Vladimir Poutine, on n'a pas non plus à se soumettre à lui. Au contraire, on doit lui poser les conditions de sa participation à une coalition, c'est-à-dire combattre l'État islamique et non pas conforter le pouvoir de Bachar el-Assad.
Vous pensez que François Fillon est dans la soumission à Poutine, qui ne cherche pas à...
Je trouve qu'il y a des responsables politiques, et il l'a fait plusieurs fois, qui défendent aveuglément Vladimir Poutine et tout ce qu'il dit. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas être dans une défense aveugle de Vladimir Poutine. Au contraire, il faut être dans une vigilance accrue vis-à-vis d'un homme qui a des prétentions dominatrices, idéologiques, et dont les positions ont perturbé les équilibres européens et aujourd'hui les équilibres moyen-orientaux.
Ramayad, dans ce petit livre, vous expliquez en quelque sorte, donc à l'instant de basculer, vous expliquez pour quelles raisons vous êtes candidate. Vous dites « je suis la candidate du centre », mais... est-ce qu'il y aurait une pureté du centre dont vous seriez, vous, la madone ?
Pourquoi en fait, ce que j'ai voulu dire, c'était assez conjoncturel, mais je me situe bien au-delà du centre. C'est-à-dire que le centre politique français, aujourd'hui, est orphelin. Orphelin de leadership, orphelin de projet politique. Depuis le départ de Jean-Louis Borloo, qui lui-même n'avait pas pu d'ailleurs être candidat à la présidentielle.
Vous avez beaucoup pleuré son départ à Borloo.
Non, mais je ne pleure plus, vous inquiétez pas. Et je m'en suis largement remise. Mais le centre est devenu un astre mort où on a vu ces petits dirigeants ne pas être capables d'avoir un candidat et de porter l'idéal d'une famille politique prestigieuse. Je rappelle
parce qu'ils négociaient les législatives.
De Clémenceau, de Gambetta, de Pierre Mendès France, de Simone Veil. C'est une grande tradition.
La splendeur passée du centre, elle est finie, elle est révolue.
Ils ne sont pas à la hauteur de cet héritage exceptionnel.
Mais en quoi vous le seriez-vous ?
Un écho dans la population. Moi, je n'en suis plus membre parce que, j'ai dénoncé certaines choses, ils m'ont dit faut arrêter de dénoncer ou alors dehors.
Bon, ils vous ont exclu.
Très bien, j'ai pris ma liberté, pas de problème, je n'étais pas obligée, c'est une forme de légion d'honneur. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve dans la situation, paradoxalement, où... Je suis la seule issue de ce centre politique-là qui suis candidate. Et eux se sont dispersés entre des candidats d'un autre parti politique, la droite, qu'on avait quitté en 2012, dispersés entre plusieurs candidats, sauf celui qui a gagné. Donc la situation est absolument incompréhensible, opaque. Ils se sont perdus dans des petits jeux politiciens dont eux seuls ont le secret. Et résultat, on a un électorat orphelin. Et donc oui, je prétends l'incarner, le représenter. C'est bien mon objectif, mais je voudrais aller au-delà. Parce que l'élection de François Fillon a aussi laissé orphelin deux autres populations dans l'électorat français. D'abord, cette droite moderne qu'avait incarné... Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire, parce que bon, François Fillon n'est pas non plus, n'incarne pas le, il a beaucoup d'autres qualités, mais n'incarne pas le renouveau. Et puis, il n'est pas non plus sur les problématiques, les sujets prospectifs comme l'écologie, notamment. Et puis cette droite
populaire. Donc vous reprenez le flambeau de NKM et de Bruno Le Maire.
Tout à fait, je le revendique parfaitement, tout comme de cette droite populaire, les électeurs populaires de Nicolas Sarkozy. que je connais bien, puisque c'était en 2007 que nous avons fait route ensemble. Et donc, nous avons là tout un espace d'électeurs de Français qui sont orphelins.
Justement, est-ce qu'il reste un espace? Parce qu'on a un peu l'impression que ce créneau du renouveau et de la modernité, il est plutôt occupé désormais par Emmanuel Macron et qu'il y prend beaucoup de place. Et en tout cas, il donne véritablement de la voix. On l'écoute.
Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
Vous le trouviez un peu inquiétant, vous l'avez dit, au lendemain de ce meeting. Vous avez dit, il y a un côté biblique. Mais vous, dans votre petit bouquin, vous dites, moi, j'ai une mission. Donc, dans le fond, c'est vous aussi.
Ce qui me frappe là, c'est vous y croyez. Il a un problème de mue, je crois, qui se sent. Mais... On voit que la voix devrait partir d'ici, elle part de là. Donc, il n'arrive pas à poser sa voix. Il y a encore un peu de travail au niveau de la mue.
En tout cas, pour le travail de récolter les électeurs du centre, là, le travail est bien avancé. On avait tous les jeunes de l'UDI qui le soutiennent, même Ségolène Royal lui trouve aujourd'hui du charme.
Oui, alors, je suis sur une ligne d'indépendance.
Oui, comment on existe par rapport à l'indépendance ?
Et je suis portée par un mouvement de plusieurs partis, et de mouvements citoyens, qui viennent de la droite, de la gauche, du centre, parce qu'on vous situe au-dessus des partis et crée un nouveau courant politique pour les années qui viennent, c'est-à-dire au-delà de la présidentielle, présenter même des candidats. Et devenir
un courant reconnu. Coopérative, comme vous dites.
Une coopérative politique, c'est-à-dire on a le droit d'être différent, de venir de tous horizons, mais ce qui nous réunit, c'est qu'on veut effectivement incarner un nouveau courant. Il est vrai que Macron, enfin, je ne sais pas si les Français le connaissent, on ne connaît pas ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, aucun
jeune homme, il n'a pas 2 ans de plus que vous.
Ah non, c'est l'inverse.
Non, 2 ans de moins.
Il a 1 an de moins.
Oui, 2 ans.
Moi.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Il a 1 an de moins que moi.
Oui, oui.
On ne le connaît pas. Il y a 2 ans, aucun d'entre nous n'était capable de citer son nom.
Et comment vous expliquez une telle ferveur
si vous rencontrez, je ne sais pas, un homme, vous n'allez pas emménager directement avec lui. Moi, j'invite les Français.
Ah, mais vous ne connaissez pas Véronique.
Le problème, c'est que les Français sont prêts à emménager avec lui. Vous avez vu la ferveur, 150 000 personnes.
Mais qui dit
ça? Comment vous expliquez ça?
50 000 personnes. Non, vous exagérez. Mais
à son dernier meeting, entre 100 et 150.
Non, il parlait d'avoir 15 000 personnes dans son meeting. Mais attendez, on ne connaît pas.
On fait vite, là.
Il faut quand même tâter la marchandise pour savoir ce que ça nous dit. Parce que même Trump, excusez-moi. Les Américains le connaissaient.
Qu'est-ce que vous appelez par tâter la marchandise?
C'est-à-dire savoir ce qu'il y a derrière. Moi, il n'a pas de programme, par exemple. D'autre part.
Mais il le dit, il a dit qu'il a tout intérêt à pas trop chiffrer. On a bien vu pendant le débat des primaires.
Ne sortons pas de l'ambiguïté. Mais les Français en ont assez soupé des ambiguïtés, des opacités, des jeux pas clairs. Pour moi, il n'incarne pas du tout. Alors, il y a des convergences sur le fait qu'il faut renouveler la politique.
Sur la modernité, le renouveau,
incontestablement.
Dans le même créneau.
On a des différences. D'abord, j'ai 10 ans de vie politique et il y en a 2. Moi, j'invite les Français à ne pas s'embarquer avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Deuxièmement, il est un envoyé du système. Alors, du système, non pas politique, mais du système financier.
C'est une ancienne ministre de Sarkozy qui dit que Macron, il vient du système. Vous ne venez pas du système.
Oui, c'est un envoyé, mais du système financier. Moi, je suis d'accord avec ceux qui demandent qu'ils listent des donateurs. Moi, je n'en suis pas une envoyée du système. J'en suis une invitée qu'on tolère à peine. Donc, ce n'est pas du tout la même position. Et puis, il incarne, comme dirait Mitterrand, les puissances de l'argent. Moi, je serais plutôt sur le terrain des valeurs.
Vous dites ça parce qu'il a été banquier. C'est pas un peu une caricature?
Seulement parce que les soutiens qui se sont affichés.
Comment vous expliquez qu'une grande partie des gens sont prêtes à se donner à un banquier inconnu, comme vous le décrivez?
Pas vrai, l'UDI, ni le MoDem, qui est encore plus violent, ne l'ont pas fait. Mais parce qu'ils étaient orphelins. Parce qu'il faut comprendre que n'ayant pas de leader, n'ayant pas de candidat à la présidentielle, ils cherchent une voie où s'inscrire. Et surtout, moi, notre grande différence, c'est que dans cette élection, moi, je veux représenter la France périphérique. La France des oubliés de la démocratie. La France d'en haut comme il l'incarne.
On va y revenir longuement. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après le flash d'information, toujours avec vous, Ramayat.
et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec notre invité Ramayad, ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme et au sport. On a évoqué avec vous la politique internationale, la Syrie. Maintenant, on va voir un petit peu, on va étudier un peu de plus près votre programme. Mais ces derniers jours, vous tapez un peu sur François Fillon, comme tout le monde, sur son programme sur la sécurité sociale. Alors ce matin, il a fait une tribune dans le Figaro. On a senti un rétro-pédalage, mais où il restait tout de même assez flou. Et on apprend là que François Fillon a retiré de son site internet la proposition donc contestée sur l'assurance maladie, retirée de son site. Comment vous l'expliquez ?
Deux remarques à ce sujet. La première, c'est que il est vrai que la victoire surprise de François Fillon, pour laquelle je voudrais d'ailleurs le féliciter parce que ce fut un remarquable
coup de maître,
finish qui restera dans les annales des élections primaires, a fait que personne n'a vraiment analysé son projet. Il était sous les radars. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup le découvrent. Et donc, effectivement, là, il est sous les feux de la rampe et ce projet
fait l'objet
de décryptage. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec son projet santé, et en particulier de sécurité sociale.
Non, mais le fait qu'il le retire, ça va bien changer.
Et justement, même en n'étant pas d'accord, je trouve que par rapport à ses électeurs, qui l'ont si largement élu, reculer aussi vite, aussi fort, n'est pas forcément...
C'est mauvais signe pour la suite.
C'est bon pour la crédibilité de la parole politique. Voilà. Mais trouve que ça, c'est assez moyen.
Mais il a également une famille, la droite a rassemblé. Est-ce qu'il pouvait laisser ce dossier sécu plomber sa campagne présidentielle, comme on dit ?
Oui, mais je pense à la parole publique. C'est-à-dire qu'au-delà
on l'a pas bien entendu, comme vous avez dit.
Au-delà
questions
finalement assez politiciennes, de courant à rassembler, choses, il y a les Français, il y a la France. Et donc, s'il pense que son projet... parce que j'ose espérer que tout ceci a été pensé et réfléchi pendant des années avant d'être proposé, est bon pour la France, est bon pour les Français, je le recule, je comprends pas, parce que en termes de crédibilité de la parole politique, qui est le plus grand mal de notre démocratie
c'est
aujourd'hui,
déjà un mauvais signal.
Eh bien, ce n'est pas très bon. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord, je ne pense pas qu'une approche purement comptable de la question de la sécurité sociale est une bonne approche.
Alors, on va parler de votre programme, mais avant toute chose, c'est la date de votre candidature qui intrigue Véronique.
Oui, parce qu'on avait un peu oublié, mais c'était le 21 avril dernier. C'est pas n'importe quelle date, hein. On est 14 ans, jour pour jour, après l'accession au second tour, on s'en souvient tous, de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Est-ce à dire que votre mouvement, cette France qui ose, vous l'inscrivez avant tout comme un mouvement anti-Front National ? Est-ce que c'est la base première de votre démarche ?
La base première de ma démarche, c'est d'être une alternative au système politique classique et un antidote au Front National. Voilà. Je voudrais, oui, sauf qu'ils restent dans leur parti. Ils ne quittent pas ce système-là. Et parce que moi, je n'y suis plus. Donc, je suis libre de proposer quelque chose de nouveau.
On a du mal à le trouver, cet antidote. Hein. Depuis en 14 ans, rien n'a véritablement changé, bien au contraire.
Justement, je viens de traverser, vous avez dit, je me suis déclaré en avril, et après j'étais un peu sous les radars, parce que je traversais le pays. J'ai traversé 60 000 kilomètres. Je n'allais pas dans les grandes villes, pas dans les agglomérations, pas sur les littoraux, mais dans les villages de France, dans les campagnes. Je n'ai pas rencontré effectivement de parti politique là-bas. J'ai rencontré le Front National. On
parlait
des parrainages tout à l'heure.
Aussi, ouais.
Là où je les ai le plus, c'est dans les départements du Vaucluse, du Var, du Nord, de la Picardie, c'est-à-dire sur les terres du Front National. Parce que là-bas, il y a un manque de représentation. Ils ne se sentent pas représentés par qui que ce soit, et donc le Front National domine tout. Et donc d'abord, la réponse, elle est là, dans la proximité, première chose. La deuxième chose, elle est dans la diversité des candidatures. J'entends déjà, et je me suis déclarée le 21 avril aussi pour ça, j'entends déjà ceux qui, comme lors des élections présidentielles précédentes, appellent au retrait de toutes les candidatures pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Autant supprimer la démocratie. Au motif que le Front National menace. Excusez-moi, mais si tout le monde se retire et qu'il n'y a plus que deux ou trois candidats, ceux qui veulent du changement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de voter Front National. Donc moi, je pense à diverses candidatures, le pluralisme démocratique qui permet d'être un antidote au Front National.
Alors, on a envie de savoir ce que vous proposez. On a choisi deux, trois propositions assez fortes. Alors, vous dites, vous proposez d'adresser les meilleurs élèves des classes de 6e dans chaque département, dans des collèges d'élite. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne prenez pas les choses à l'envers et à contresens, parce que dans le fond, c'est pas les bons le problème. Le problème, ce sont les mauvais.
Mais le problème des bons, c'est que, à force d'être laissé dans un environnement
Pas stimulant, qu'est-ce qu'on fait pour les mauvais?
Eh bien, on les tire vers le bas. Oh, mais attendez, on va y venir. Mais d'abord, essayons de récompenser les méritants, de ceux qui ont travaillé, de ceux qui ont du talent. Parce que le talent n'est pas affaire de couleur de peau ou d'origine sociale. On peut être
ressortissant. Vous pensez un peu à votre expérience quand vous dites ça?
Mais complètement. On peut être ressortissant d'une ZEP, mais je n'ai pas été en ZEP.
C'est le mérite de Nicolas Sarkozy.
Oui, mais sauf qu'il n'y a pas eu de... Ils ont créé des... Fadel Amara avait créé ses internats d'excellence, mais ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que l'esprit, c'était pas de créer des internats pour tout le monde, mais fallait les créer pour les meilleurs. Pourquoi? Parce que on ne peut pas les laisser dans une situation où ils ne sont pas tirés vers le haut malgré leur talent. Et au fond, l'égalitarisme, c'est ça. Marcel Gauchet racontait que lui, fils d'une famille d'ouvriers, a pu accéder à Normal Sup. Il expliquait qu'aujourd'hui, pour un enfant comme lui, ce serait impossible parce qu'on reste dans sa carte scolaire, dans sa ZEP, on ne peut pas en sortir. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense qu'indépendamment de la carte scolaire, et des ZEP et compagnie, on doit pouvoir sortir Fatoumata, Mohamed ou Kevin de sa ZEP s'il est le meilleur de sa classe pour l'envoyer à Henri IV. Oui. Pourquoi? Parce qu'on permettra.
Oui, mais les mauvais, je vous repose la question. Alors, les mauvais, on en fait quoi?
Mais attendez, les autres ne sont pas mauvais.
C'est ça le sujet.
Il n'y a pas de mauvais.
Ça veut dire que les mauvais, on les laisse avec les mauvais. Donc ils sont foutus.
Non, il n'y a pas de mauvais. D'abord, il faut évaluer tout le monde.
Regardez les chiffres PISA. Il y en a des mauvais.
C'est lent ou être mauvais. Il y a des talents divers. Tout le monde n'est pas, par exemple, fait pour les enseignements théoriques. Il y en a qui ont, par exemple, l'intelligence de la main et pour l'apprentissage. Mais est-ce que ça interdit l'excellence?
Non.
Et c'est pour ça que je propose, justement, que l'apprentissage ne soit pas assimilé à une voie de garage et qu'on crée des hautes écoles de l'apprentissage.
Parce qu'on a beaucoup de questions.
Les meilleurs CAP, les meilleurs BEP.
D'accord.
C'est ça que je veux dire, la promotion du talent.
Autre question qui est intrigante, vous dites qu'il faut un examen d'entrée à l'université, mais c'est le bac.
Non, le bac ne vaut plus grand-chose. Vous savez qu'il y a des...
Ah, vous trouvez qu'il est dévalué, le bac?
Les bacheliers qui obtiennent 22 ou 23 sur 20 chaque année.
Vous dites tout le monde a le bac, c'est ça?
Ça n'a pas l'air d'étonner grand monde. Comment 23 sur 20, c'est possible?
Pourquoi pas revaloriser le bac?
Ça n'a aucun sens. Donc, et d'ailleurs, ça n'a tellement peu de valeur que les familles privilégiées et les grandes écoles savent que la sélection se passe non pas au niveau du bac, mais avant, en contrôle continu. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de mentir à une génération. Il faut arrêter de lui faire croire que 80% a le droit d'avoir le bac. D'abord parce que quand vous regardez bien ces 80%, vous rendez compte que 71% qui ont le bac général sont des enfants de cadre et les autres, c'est des enfants d'ouvriers qui ont le bac professionnel.
Et pourquoi crier un autre examen et pas revaloriser le bac ?
Non, je parle de l'examen d'entrée à l'université, c'est encore autre chose. Là, c'est l'étape suivante. Parce que
le sésame de l'université, c'est le bac.
Manifestement, non, parce que tout le monde rentre à l'université. C'est gratuit, c'est libre d'accès.
Une fois de plus, vous voulez que ce soit que les bons qui aillent à l'université?
Pas du tout. Ils avaient 3/4 qui échouent en première année. Moi, je veux qu'on cesse ce mensonge. Je voudrais qu'on rende, vous savez, on leur rendra service à cette génération si on arrête de leur mentir en leur faisant croire que 80% au bac, que l'entrée libre et gratuite à l'université, ça, c'est bien, c'est un progrès, alors que ça ne l'est pas. Regardez les taux d'échec.
Alors, vous parlez des banlieues et Véronique et moi, on a beaucoup de questions, notamment sur la laïcité. Donc, ce reportage sur France 2 vous a peut-être pas échappé. En tout cas, il n'a échappé à personne. Il a fait beaucoup réagir. Il a choqué même. C'est à Sevran, en Seine-Saint-Denis. On y voit des femmes refoulées, interdites dans un café sous prétexte que les hommes que seuls les hommes y sont autorisés. Regardez un extrait et on en parle.
On va se faire discrète, petite dans un coin.
Il n'y a que des mecs dans ce café.
Mais comment que c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non?
Normal. Ma cousine reste chez elle.
Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon?
Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité.
Mais est-ce que c'est normal?
On est à Sevran, on n'est pas à Paris.
Même à Sevran, c'est la France.
T'es dans le 93.
Et alors, Sevran, le 80. Et alors
à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled.
Voilà, je vous repose cette question de cette femme. Est-ce que c'est normal?
Non, ce n'est pas normal. Et au fond, tout ça est la conséquence de 30 ans de lâcheté et de renoncement par rapport aux principes communs qui devraient nous guider. La logique communautaire l'a emporté dans bien des endroits sur la loi républicaine, ce qui devrait favoriser l'émancipation, la mixité. On a préféré effectivement cette espèce de sécession, de vie à part.
Vous parleriez d'apartheid territorial comme
ça. Ça existe par l'éducation, le logement, l'urbanisme dont on a parlé tout à l'heure.
Vous prendriez ce même terme.
Ah, complètement. Il y a une ségrégation volontaire. Mais là, on est dans une volonté de vie à part, de communautarisation, mais qui, je veux dire, on a
d'imposer un modèle qui.
Mais c'est l'État qui a donné l'exemple. Excusez-moi, à un moment, les pouvoirs publics proposaient des piscines séparées entre les hommes et les femmes. Il y a des salons de coiffure classiquement lambda, mais pour femmes voilées dans certains endroits. Donc, il y a un moment donné, on a accepté ces choses-là. Le renoncement, la lâcheté, la trahison des laïcs a commencé par l'État lui-même, les pouvoirs publics eux-mêmes.
Quand vous dites on a accepté le précédent gouvernement, je ne parle pas du gouvernement actuel, mais le gouvernement Sarkozy, sous Sarkozy, on a accepté ce genre de pratique, vous pensez?
Tout ça existe.
On l'a pas vu.
Tout ça existe depuis des années.
On le découvre aujourd'hui.
Tout ça existe depuis des années parce qu'il y a une pression du Front National, parce qu'il y a un procès permanent qui est fait à l'islam, quelquefois de manière injuste, parce que voilà, il y a une espèce de crise existentielle dans laquelle on est enfermé, qui fait que les Français veulent des coupables. Voilà. Et donc moi, ce que je dis d'ailleurs dans le livre à l'instant de basculer, c'est qu'on est au moment de la bascule. C'est-à-dire que nous sommes à un tournant de notre histoire et j'invite les Français, dans ce moment du choix 2017, qui va être une élection pas comme les autres, à se tourner vers leur passé et surtout vers les principes qui ont fondé la nation française, et parmi lesquels la loi de 1905 sur la laïcité. Ouais. Quand vous disiez tout à l'heure frondeuse, je termine ce livre en disant il n'est plus temps d'être frondeur, il est temps d'être fondateur.
Pourquoi votre date fétiche est le 4 août 1789, hein, qui est la grande peur après la prise de la Bastille? Pourquoi vous prenez cette référence?
Parce que c'est, il y en a plusieurs, il y en a huit. L'idée, c'est au fond de...
C'est la première, en tout cas.
C'est la première, en effet, de reprendre les grandes dates qui ont fait l'histoire de France et fondé ces principes qui ont fait la nation française. Et c'est parce qu'on a renoncé à ces principes-là que les Français ne se reconnaissent plus. Et les Français sont malheureux de ne plus se reconnaître. Et au fond, je les invite à non pas aller rechercher les racines chrétiennes de la France, mais ces racines républicaines. Et 4 août 1789, c'est l'abolition, c'est la nuit, c'est l'abolition des privilèges. Oui, mais... Et j'explique qu'on est passé finalement de cette abolition des privilèges à la restauration d'une société de privilèges grimée en société républicaine.
Comment on fait pour répondre face à ces questions d'apartheid territorial, ce radicalisme islamique? Comment on fait pour lutter concrètement?
On commence par l'éducation, c'est-à-dire... Non, par l'instruction, c'est pas pareil. C'est aux familles d'éduquer leurs enfants et à l'école d'instruire. C'est une mission suffisamment importante. Et donc pour cela, mettre quelque chose dans le cerveau des enfants. Qu'on arrête de transformer l'école en garderie. Qu'on arrête de transformer les enseignants en assistants sociaux. Qu'on arrête de considérer qu'il doit y avoir des ghettos de riches et des ghettos de pauvres parce que ça a la conséquence. Parce que quand l'école perd pied, quand elle n'instruit plus, eh bien que font les familles
privilégiées? Mais ça, c'est un constat. Mais vous faites
Je vous ai proposé les lycées d'élite républicaine, ça c'est une première chose, qu'on évalue chaque année, à la fin de chaque année, le niveau des élèves, pour savoir qu'est-ce qu'ils savent.
Ça c'est une démarche dans la durée, attendant, c'est
café, mais vous croyez que l'éducation nationale, il suffit de changer un point ici, un point là, l'éducation. C'est pour ça que c'est grave, les décisions que prennent Najat Vallaud-Belkacem, parce que c'est pour une génération.
Si certains sont aujourd'hui des militants du Front National, c'est parce que parfois on ne trouve pas de solution à ce genre de problème. Alors qu'est-ce qu'on leur répond? Comme ça,
on fait les choses sérieusement.
On compte sur l'éducation, fort bien, et c'est vrai que c'est une base de la
société. Oui, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, le logement. Le logement est aussi un autre souci. Les lois de l'ANRU, c'est très bien, mais on s'est occupé des bâtiments, pas des hommes qui vivent à l'intérieur. Je crois aussi qu'il y a un esprit d'entreprise qui est très fort dans les quartiers populaires, beaucoup plus qu'ailleurs, puisqu'on crée deux fois plus d'entreprises. Des boucheries, des boutiques de téléphonie, etc., de vêtements de sport. Et cet esprit d'entreprise, il ne dure pas, en fait, parce que les entreprises n'ont pas de pérennité, faute d'argent, de réseau, etc. Donc moi, je propose, par exemple, Silicon Valley des banlieues, c'est-à-dire une espèce de fonds d'investissement tenus par des chefs d'entreprise, hein, pas des hommes politiques, mais des chefs d'entreprise, où on leur mettrait à disposition des espaces de coworking pour avoir accès à des conseils en stratégie, en droit, en fiscalité, en financement.
J'aurais pas revenir là-dessus, mais c'était pas l'idée du plan Marshall pour les banlieues
Non, personne n'a encore proposé ça. Non. Non, le plan Marshall avait plein de volets, ouais. Mais encore une fois,
c'était pas ça. C'était pas la revitalisation de tout ce qui est petite entreprise dans les banlieues pour mettre.
Il s'agit pas de
la création de cette jeunesse qu'il y a là d'ailleurs, hein, avec une vraie créativité.
Il ne s'agit pas de créer les habitants des quartiers populaires n'ont besoin de personne pour créer une entreprise. C'est pas ça le problème. La difficulté, c'est qu'elles ne durent pas, ces entreprises. Donc oui, mais pour qu'on puisse embaucher, il faut qu'elles durent.
Voilà. Je voudrais relever une phrase. On a l'impression que vous l'avez piquée à Henri Guénaud. Je suis française parce que je vibre au souvenir du sacre de Reims, de la fête de la Fédération et des tirailleurs sénégalais. Vous parliez de ces.
Henri Guénaud ne peut pas avoir parlé des tirailleurs sénégalais.
Oui, d'ailleurs, sur l'Afrique, on se souvient de son discours de Dakar qui a marqué.
Enfin, pourrait,
quand vous dites je vibre au souvenir du sacre de Reims, on dirait vraiment du Guénaud dans le texte. Vous parlez de ces gamins de banlieue, mais vous dites que vous avez été naturalisé à l'âge de 21 ans, mais vous avez eu la chance d'avoir des parents éduqués qui étaient fascinés par la politique, par le général de Gaulle. Aujourd'hui, des gamins qui ont pas d'éducation, qui ont des parents qui parlent à peine français, on fait quoi ? Vous parlez d'éducation, d'instruction, mais quand à la maison, on parle même pas français, comment vous réglez le sujet ?
Eh ben, vous savez, on peut être le fils ou la fille de parents complètement illettrés et être le meilleur de sa classe. Ça existe. Et c'est beaucoup moins rare que vous ne le pensez.
C'est pas la majorité.
Mais ça existe et ça.
Mais une fois de plus, vous me parlez toujours de l'élite, mais jamais.
Mais je vous parle pas de l'élite.
Ce que je vous dis,
c'est que moi, je ne prends pas les enfants tels qu'ils sont, mais dans leur plus riche potentialité, dans ce qu'ils sont capables de faire. Il n'y a pas de mauvais ou de bons. Il n'y a que le pari que vous faites.
Des collèges d'élite.
Non, les autres. Encore une fois, c'est pas bon ou mauvais. Après, il y a des moyens, il y a des plus ou moins, etc. Et ce que je dis simplement, c'est que. Chez chaque enfant, il y a un talent qui ne demande qu'à être développé. Et ce talent peut s'exprimer de diverses manières. C'est pas parce qu'il y en a un qui vont à Normal Sup que les autres, pour eux, les autres, c'est foutu. Ouais. On peut aussi être très bon dans les arts, être très bon dans la pâtisserie. On peut finir un excellent plâtrier, céramiste, ambassadeur d'un savoir-faire international de la France. Donc, ce n'est pas, pour moi, c'est l'excellence qui compte. C'est porter chaque enfant dans la diversité de son talent, dans ce qu'il est capable de faire le mieux. J'ai confiance dans les enfants en France.
Alors, vous dites aussi, vous parlez beaucoup de l'Afrique, hein, puisque vous êtes d'origine sénégalaise. Donc c'est un continent qui vous tient à cœur et vous dites que c'est un continent d'avenir, c'est un nouvel atelier du monde qu'elle illumine désormais de ses prix Nobel, de ses start-up, de ses nouveaux milliardaires. L'Afrique qui nous regarde aujourd'hui avec tant d'indifférence du haut de son extraordinaire révolution technologique. Donc elle nous méprise, il faut retrouver sa place en Afrique.
Il y a de bonnes nouvelles de ce côté-là et on devrait regarder ces bonnes nouvelles en France. Ne pas uniquement regarder le continent africain sous l'angle de la menace démographique.
Ouais.
Surtout pas sur nos antennes, en tout cas.
Non, surtout pas. Et heureusement que vous êtes là pour en donner une autre information. Je note que sur les 10 pays à plus fort taux de croissance, 6 sont africains. Je note que les fonds de pension qui se développent le plus sont là, que la dynamique des start-up est extraordinaire, que sur les 100 milliardaires du monde,
donc vous dites,
il y a 29 Africains.
Il faut un New Deal. Quel New Deal peut-on passer avec l'Afrique, nous, France ?
Attention, il nous reste quelques minutes.
Regardez, au Sénégal, par exemple, on vient de découvrir du pétrole, les 3/4 des réserves du Qatar. Je pensais qu'il n'y avait que l'arachide au Sénégal. Vous vous rendez compte du changement ? Eh bien, les marchés ont été captés par tout le monde, les Australiens, les Américains, les Français ne sont pas dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. On perd des opportunités économiques. Donc, il faut un New Deal, des partenariats, plus d'aide. On arrête avec l'aide. Hein? L'Afrique veut le langage de l'investissement et du partenariat.
On se quitte. Merci, Ramayad. Un mot, deux hommes sont morts au combat. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Sarkozy, votre ancien mentor. Mentor, pardon. Est-ce que... pour le lapsus. Moi, un mot sur... il vous reste 30 secondes pour évoquer ce départ.
Ah, je dirais pas de mal de Nicolas Sarkozy. Il est sorti du champ politique, du combat politique. Merci. Et je voudrais rendre hommage à une carrière de 40 ans. Et il m'a permis de faire un jour mon premier discours et de me donner
pas trop chance
de la politique.
Merci Ramayad et à très vite sur France 24 et RFI. Merci.
Le débat du jour.